plus de puissance.
Oui, monsieur.
Mesdames, messieurs.
Je suis une voix.
Je vais à la rencontre de la nature.
Je suis le sillon à suspense.
On peut se demander qui de l'homme ou de la nature est musicien.
J'ai utilisé des sons d'animaux pour créer des rythmes.
France Culture, l'électro naturel, Étienne Menu.
Avec un ensemble d'instruments électroniques et avec le sourire.
Bonjour et bienvenue dans la série musicale d'été, une série qui cette semaine va s'intéresser au lien entre la vie, le vivant, la nature et le vaste univers des musiques électroniques. L'idée de musique dite électronique souffre encore trop souvent d'une image négative aux yeux des mélomanes. Certains persistent à la croire par essence artificielle, inauthentique, voire déshumanisée. Alors certes, un producteur de techno devant son ordinateur ne vit pas la même expérience qu'un pianiste face à son clavier. Leurs gestes ne sont pas les mêmes, leurs horizons esthétiques non plus. Et de fait, le son d'une boîte à rythme ou d'un synthétiseur n'a pas la même qualité de présence que celui d'une batterie ou d'un orchestre symphonique. Mais pourtant, les musiques électroniques ont bien souvent transcendé cette opposition binaire entre d'un côté le vivant, l'organique, le physique, et de l'autre le monde dévitalisé et préprogrammé auquel se réduiraient les travaux d'artistes aussi différents que Kraftwerk, Lee Scratch Perry, Jeff Mills, Daft Punk ou Stevie Wonder, dont nous écoutons ici le titre Earth Creation. En vérité, on pourrait dire qu'en allant se confronter aux machines, les musiciens électroniques ont exploré le destin technologique de nos sociétés et des vies que nous y menons. Ils ont regardé notre réalité en face et assumé que l'artifice et le synthétique faisaient depuis longtemps partie de nos existences. Mais ils ont aussi pu utiliser leurs instruments pour dialoguer avec des entités dites naturelles ou pour mettre de la vie dans des environnements supposément hostiles. Nous voulons d'abord parler du règne végétal et du règne animal, avec lesquels bon nombre de productions électroniques anciennes ou récentes entretiennent des rapports privilégiés et que nous aborderons aujourd'hui puis demain. Mais il faudra également évoquer le lien complexe qui unit les machines à la voix humaine, comme nous le ferons mercredi. Jeudi, nous tâcherons ensuite d'écouter les fantômes qui surgissent parfois au détour d'un écho ou d'une réverbe, dans la pop ou le dub, et de comprendre l'art du dysfonctionnement, du bug et du glitch comme outil d'émancipation artistique. Et puis vendredi, nous terminerons par un voyage dans ce qui reste la plus incroyable utopie de la musique électronique. Ce sera le monde sous-marin de Drexia et de ses habitants fictionnels, mais terriblement vivants. Pour commencer, nous allons donc vous raconter l'histoire de la musique électronique qui parle de plantes, voire qui parle aux plantes, une histoire qui démarre au début des années 70. En 1973 paraît aux États-Unis un livre intitulé The Secret Life of Plants, écrit par Peter Tompkins et Christopher Bird. Ces deux journalistes, qui ont en commun d'avoir travaillé pour les services secrets durant la Seconde Guerre mondiale, proposent une approche des plantes moins scientifique que spirituelle. Ils affirment que les végétaux nous entendent, nous comprennent, qu'ils sentent les choses à leur manière. L'ouvrage devient vite un best-seller dans une Amérique post-hippie plutôt sensible à ce genre d'idées, même si de leur côté, les biologistes n'y voient qu'une fantaisie pseudo-scientifique. Bird et Tompkins avancent entre autres que les plantes seraient réceptives à la musique. À l'époque, il se trouve que les premiers synthétiseurs commencent à s'installer dans l'imaginaire auditif, dans les charts, mais aussi au cinéma et à la télévision. Leur capacité à suggérer le mouvement, la texture, l'expansion vont leur offrir un rôle essentiel dans ce qui va devenir un véritable marché, celui des disques pour les plantes vertes. Parmi ces disques, l'un d'entre eux va être signé par l'une des plus grandes stars de la pop, et il s'agit donc de Stevie Wonder. Prodige de la soul et compositeur hors norme, Stevie Wonder a passé les années 70 à vendre des albums par million et à enchaîner les Grammy Awards. Ses disques réussissent l'exploit d'être à la fois populaire et complexe, explorant notamment les nouvelles technologies sonores. En 1978, il signe la bande originale du documentaire adapté du livre de Bird et Tompkins qui sort chez les disquaires sous le titre « A Journey Through the Secret Life of Plants ». L'auteur de Superstition y fait la part belle aux instruments électroniques, on y retrouve notamment son fameux orgue clavinette, mais aussi des boîtes à rythme et même l'un des tout premiers samplers. Cette œuvre, principalement instrumentale, se vendra beaucoup moins que ses précédents opus, mais elle expose néanmoins au grand public une musique panthéiste qui s'adresse à toutes les créatures, humaines, animales ou végétales. Le style de jeu de Stevie Wonder, la façon qu'il a de faire croître ses mélodies et ses harmonies, de donner au son cette espèce d'opulence organique grâce à ses machines, sert donc admirablement la mission qu'il se donne. Le livre, le documentaire, mais donc surtout sa bande-son, nous suggère aussi, en parlant aux plantes, de repenser notre propre façon de sentir et d'hiérarchiser le monde. Ces tableaux végétaux, peints à l'aide des pinceaux électroniques de Stevie Wonder, doivent nous permettre d'identifier ce que nous partageons avec les plantes. En renversant radicalement le point de vue humain, Wonder cultive une démarche d'artiste noir en quête d'un nouveau langage, d'un nouveau terrain d'expression. Comme l'écrit Francesca Royster dans son livre « Sounding like a no-no », le chanteur aveugle semble intégrer l'âme même des plantes à sa soul music. L'énergie naturelle qui fait pousser une fleur ou un arbre serait ainsi comparable au funk qui fait bouger les corps. Le groove et la faculté d'improvisation qui nourrissent les musiques afro-américaines pourraient tout aussi bien être des propriétés du règne végétal si les biologistes décidaient de changer de vocabulaire. Selon Francesca Royster, Stevie Wonder cherche à restaurer dans Secret Life of Plants un rapport africain, ou du moins ré-africanisé à la nature, un rapport détruit par l'esclavage, puis par les migrations des Noirs américains du sud au nord des États-Unis. Et pour reconstruire ce rapport intime, il faut recourir aux machines et créer des pièces d'une beauté inédite qui attirent l'oreille comme une superbe plante peut attirer le regard. Les possibilités augmentées offertes par le studio d'enregistrement ou les synthétiseurs permettent ainsi à Wonder de fabriquer des morceaux en expansion permanente qui miment le végétal tout en le magnifiant, comme pour mieux imaginer un futur où l'être humain et son environnement retrouveraient leur complicité originelle. Sur le titre « Venus Fly Trap and the Bug », Wonder met en scène le dialogue entre une plante carnivore, la Dionée attrape-mouche, et la mouche en question, laquelle finit par se faire avaler. Et c'est à l'aide d'un vocodeur que le chanteur interprète le rôle de l'insecte.
Hello, flower. Boy, you look juicy. And you know just what I'm coming to get.
Mais Stevie Wonder est loin d'avoir été le seul musicien inspiré par le livre de Bird et Tompkins. En 1976, le Canadien Mort Garson publie ainsi un album intitulé Plantasia. Ce quinquagénaire a beaucoup écrit pour la variété américaine, mais depuis quelques années, il s'est pris de passion pour le synthétiseur Moog. Délaissant ses chansonnettes Easy Listening, il a sorti plusieurs albums instrumentaux et futuristes sur des thématiques allant du zodiaque au satanisme. Installé à Los Angeles avec sa famille, il lit The Secret Life of Plants grâce à sa femme, qui a la main verte et fréquente une jardinerie de Melrose Avenue, Mother Earth en français, Mère Nature. Le couple remarque alors, sûrement sous l'influence du livre, que leurs plantes vertes semblent apprécier les compositions électroniques que Garson joue sur son Moog. Les fils entremêlés du synthétiseur leur rappellent-ils leur jungle originelle ? Ces étranges et douces textures leur évoquent-elles le monde où elles s'épanouissaient jadis ? Impossible de le dire clairement, bien sûr, mais toujours est-il que son épouse lui suggère de composer des morceaux qui s'adressaient spécifiquement à ces plantes. Garson s'exécute et enregistre le disque. Un album qui prendra tellement sa tâche au sérieux qu'il ne sera disponible que chez Mother Earth, la jardinerie de Melrose. Les titres des plages de Plantasia sont on ne peut plus explicites. Symphony for a Spider Plant, Concerto for Philodendron, You Don't Have to Walk a Begonia, en français pas la peine de promener votre bégonia, une petite pique adressée aux propriétaires de chiens. Nous écoutons en ce moment Ode to an African Violet. Plantasia était donc distribué uniquement sous forme de cadeau offert aux clients de Mother Earth. Il restera par conséquent très confidentiel au moment de sa sortie. Garson n'en prendra pas ombrage puisqu'il avait déjà très bien gagné sa vie au cours de sa première carrière en tant qu'auteur et arrangeur de tubes. À partir de la fin des années 70, il cesse progressivement de composer. La culture du sampling va lui rendre hommage dès 1996 lorsque DJ Shadow utilisera un fragment d'un de ses disques. Puis 20 ans plus tard, le label Sacred Bones, basé à Brooklyn, mettra la main sur cette rareté absolue qui est devenue Plantasia et décidera de le rééditer. Garson, lui, est mort en 2008, mais il aurait sûrement trouvé drôle de voir ce disque si domestique devenir un objet de culte chez les amateurs de musique électronique vintage. En France, il est fort peu probable que quiconque ait entendu Plantasia à sa sortie. En revanche, la traduction du livre Secret Life of Plants avait plutôt bien marché en librairie et fit apparaître dans son sillage quelques disques électroniques à destination du public végétal de l'Hexagone. C'est d'abord le compositeur normand Roger Roger qui publie en 1978 un disque intitulé « De la musique et des secrets pour enchanter vos plantes ». Un disque lui aussi joué au Moog et accompagné d'un livre signé par le journaliste et écrivain Martin Monestier. On y affirme sans complexe que les plantes ont chacune besoin d'une musique particulière, avec son rythme, sa couleur, sa durée, et qu'elles supportent très mal, je cite, le rock acide et le dodécaphonisme. Si nous n'avons pas pu éprouver l'efficacité du disque, on peut en revanche en louer le charme et l'audace, où la musique classique occidentale ou indienne rencontre les paysages de l'outre-monde électronique. S'il ne connaissait peut-être pas Mort Garson, Roger Roger avait en commun avec lui d'avoir travaillé dans la musique dite légère, c'est-à-dire dans la variété, dans l'opérette, mais aussi pour le cinéma, la radio, la télévision et donc ici dans ce qu'on appelle l'illustration sonore. Un domaine où, pour des raisons économiques, on recourait beaucoup à l'instrumentarium électronique. Un monde qui enchanta Roger Roger et qui lui donna la liberté d'à son tour nous enchanter et d'enchanter nos amis les plantes. Pour l'anecdote, on signale que Roger Roger n'est pas un pseudonyme, mais bien le vrai patronyme de ce compositeur aux parents facétieux. Plus tard, TF1 diffuse à une heure de grande écoute un documentaire fascinant et mémorable, L'aventure des plantes, adapté d'un livre du biologiste Jean-Marie Pelt qui le co-réalise avec Jean-Pierre Cuny. Le film marque les esprits par ses images de croissance accélérée des plantes en stop motion, un processus devenu courant aujourd'hui mais totalement inédit à l'époque. Son générique et l'ensemble de sa bande-son, composée par Joël Fagerman, sont également l'occasion d'exposer au grand public français les merveilles de la musique électronique, quelques années après le succès mondial de Jean-Michel Jarre et de son album Oxygène, qui lui aussi s'intéressait au monde végétal, mais sous un angle moins optimiste. « Fagerman n'a pas attendu le documentaire de Pelt et Cuny pour s'intéresser aux plantes. En 1978, il publiait déjà un disque d'illustration du nom de Racines synthétiques avec un autre adepte du Korg, prophète et autres synthétiseurs qui s'appelait Jan Hirsen. Et il va réutiliser ainsi quelques-unes des plages de ce disque aussi éblouissant que fonctionnel pour accompagner les images qui hypnotiseront les téléspectateurs de l'aventure des plantes. En 1987, TF1 diffusera un deuxième volet de l'aventure des plantes dont la bande-son sera, là encore, signée par Fagerman. Le compositeur se fera un nom et signera d'autres génériques pour la télévision, entre autres ceux de la série Julie Lescaut ou du jeu d'aventure La Chasse au Trésor. Et puis en 2000, on le retrouvera en charge de l'environnement sonore du pavillon français lors de l'exposition universelle de Hanovre. Si les synthétiseurs semblent avoir jusqu'ici renvoyé une image heureuse du règne végétal, on voit en parallèle émerger des œuvres abordant les plantes sous un regard plus sombre. Il y a donc eu Oxygène de Jean-Michel Jarre dont la pochette, on le rappelle, montrait le globe terrestre partiellement recouvert d'un crâne humain. Il y a aussi, en 1982, la bande originale d'un film d'animation mélancolique, Les Maîtres du Temps. Les Maîtres du Temps, c'est un long métrage de René Laloux qui s'adresse à la fois aux enfants et à leurs parents. Il raconte l'aventure d'un jeune garçon, Piel, perdu sur une planète mystérieuse, où de gros fruits offrent un jus contenant des alcaloïdes et où des lianes cruelles capturent de sympathiques créatures, les ouin-ouin. On voit aussi dans Les Maîtres du Temps, mais sur une autre planète, d'étranges nénuphars qui chantent et laissent éclore de petits robots télépathes. C'est une vision psychédélique de la nature, tantôt accueillante, tantôt effrayante, développée par René Laloux avec le célèbre auteur de bande dessinée Moebius et le non moins célèbre auteur de polar Jean-Patrick Manchette. La musique est quant à elle composée par Pierre Tardy, Christian Zanesi du GRM et Jean-Pierre Bourter, arrangeur de variété.
Culture, l'électro naturel, Étienne Menu.
On sait que les Japonais cultivent un rapport intime et sacré à leur nature. Le culte des fleurs et des arbres y est ancien et depuis Hiroshima et Nagasaki, l'activisme écologiste y reste fort. En parallèle, les Japonais ont adopté les technologies de pointe avec enthousiasme. Une bonne partie des grandes marques d'instruments électroniques sont d'origine nippone, telles que Akai, Yamaha ou Roland. La musique synthétique japonaise a largement exploré cette fameuse tension entre tradition et modernité. Et dans les années 80, certains de ces artistes ont évolué au carrefour de l'artificiel et de l'acoustique en travaillant des thèmes végétaux. On peut ainsi citer Motohiko Hamase, bassiste de jazz, auteur en 1988 d'un album intitulé Notes of Forestry, qui mêle basse fretless, piano solitaire et arrangement électronique. Un résultat à la fois fluide et touffu, dépouillé mais vif, qui appelle une méditation qu'on pratiquerait toujours sur le qui-vive. Un effacement de l'ego au profit d'une sensibilité très verte, pas moins active, mais plus en phase avec son environnement. Dans un registre moins jazz, plus ambiante, on écoute à présent le titre Flora de Hiroshi Yoshimura. Ce compositeur mort en 2003 a été l'un des pionniers de la musique dite environnementale au pays du soleil levant. La plupart de ses disques ont abordé la nature sous différentes formes et s'appellent ainsi Flora ou Quiet Forest ou Wetland ou tout simplement Green. S'il n'a jamais caché les vertus relaxantes de ses productions, Yoshimura a également créé des pièces pour des lieux spécifiques, qu'il s'agisse de galeries d'art, d'ateliers ou de gares. Son travail, qui est une sorte de pendant musical au Land Art, est en cours de réédition chez le label américain Light in the Attic, qui a également édité en 2019 une anthologie consacrée à la musique environnementale japonaise qui s'appelle Kankyo Ongaku.
Building bamboo houses.
Nous restons au Japon tout en regardant vers l'Angleterre avec Bamboo Music, morceau de 1982 chanté par le Britannique David Sylvian, accompagné de Ryuichi Sakamoto aux machines. Les textes sibyllins évoquent donc une musique de bambou que chantent les enfants d'un pays qu'on imagine asiatique. David Sylvian n'a jamais caché sa passion pour l'Extrême-Orient puisque le groupe qui l'a fait connaître s'appelait Japan. Devenu très ami avec Sakamoto, il publiera un an plus tard, toujours en duo avec lui, le morceau Forbidden Colors, dont la version instrumentale deviendra un des plus grands tubes de l'époque puisqu'elle servira de thème au film Furio, où le japonais sera également acteur face à un autre anglais, lui aussi prénommé David, et qui en l'occurrence était le modèle absolu de Sylviane, c'est, on s'en souvient, David Bowie. Tout comme le Japon, la Grande-Bretagne est un pays à la fois technophile et attaché à la nature. On connaît le mysticisme pastoral de ses poètes ou de ses peintres, tout comme on sait à quel point sa population a bénéficié de la révolution industrielle, puis souffert de la post-industrialisation des années 70 et 80. Le mouvement rave, lui, a démarré au Royaume-Uni autour de 1987, d'abord dans des clubs, puis dans ces zones ni vraiment urbaines ni vraiment rurales qui entourent les grandes villes du pays. Ce cadre, décrit par certains comme néo-païen, a caractérisé tout un pan de la techno-britannique. C'est une musique qui embrasse les machines dans un élan presque accélérationniste, mais qui en même temps s'expérimente souvent dans des sous-bois ou des champs laissés en jachère. On écoute ainsi le vivace magellonique du projet Écotouriste, composé en 1994 par trois pionniers de la techno anglaise, Dave Hill, Andy Turner et Ed Henley. Au début des années 90 vont apparaître en Angleterre les premiers éco-activistes que les médias montraient juchés en haut d'arbres qu'ils refusaient de voir coupés par les autorités. Le lien entre rave et écologie radicale s'est fait naturellement et on a ainsi vu des artistes défendre dans leurs morceaux la préservation des espèces ou nous avertir de la catastrophe qui nous attendait. Là encore, le vecteur électronique s'est montré très efficace pour s'approprier ou pour imiter à sa façon les sons de la nature ou ses mouvements. Nous enchaînons ici avec un exemple plus sombre et plus inquiet d'engagement écologiste. Il s'agit du morceau Hillflower du groupe Future Sound of London. Ce duo, connu pour son approche transdisciplinaire, a cultivé au sein de la scène électronique des années 90 une véritable conscience messianique. Son approche a fait se rencontrer musique, création radio, graphisme et science-fiction. L'album Dead Cities en 96 proposait ainsi une plongée dans un Londres aux allures de dystopie cyberpunk. ISDN en 1994, joué avec les ondes des différentes stations où le groupe s'était produit en live, et puis Lifeforms, dont ici extrait Hillflower, creusait l'idée que la musique électronique était un outil pertinent pour découvrir, voire pour créer de nouvelles formes du vivant en cette fin de XXe siècle pré-apocalyptique. Un disque qui alterne lumière et ombre, élan vital et pulsions morbides, et qui montre en tout cas que les rythmes techno ne servent pas qu'à faire danser des corps intoxiqués dans des hangars, mais aussi à réveiller les âmes qui hantent les forêts ou les marais. When lava pours out near the sea surface, tremendous volcanic explosions sometimes occur. In time, submarine seamounts or islands are formed. When lava flows underwater, it behaves differently.
contraption to capture a dandelion in one piece has been put together by the crew. The preparation for a dive is always a tense time. When lava pours out near the sea surface, tremendous volcanic explosions sometimes occur.
S'il est un groupe électronique britannique que l'on peut qualifier de pastoral, de bucolique, c'est sans aucun doute celui formé par les deux frères écossais de Boards of Canada. Depuis 25 ans maintenant, leurs créations ont le pouvoir d'évoquer la lumière rasante d'une fin d'après-midi en forêt, le frémissement d'un feuillage, la texture d'une mousse. Une de leurs principales inspirations sont d'ailleurs les documentaires sur le règne végétal qu'ils regardaient enfant. Denses, proliférantes, mais jamais agressives, leurs plages font l'objet d'un culte parmi une large communauté de fans. Nous écoutions juste avant Dandelion, autre nom du pissenlit sur leur album Geogaddy sorti en 2002, puis à l'instant New Seeds, extrait de leur dernier disque de 2013, au titre lui aussi assez champêtre Tomorrow's Harvest. C'est maintenant le moment de parler de légumes avec un titre d'un autre duo anglais, lui beaucoup moins planant que Boards of Canada. Coil, c'est l'un des groupes les plus singuliers de la musique britannique qui a fait ses débuts dans la scène dite industrielle pour rapidement suivre son propre chemin dans des registres plus ou moins faciles à écouter et en cultivant toujours l'ambiguïté entre le solennel et le potache, voire le mystique et l'obscène. Dans la chanson « Brocoli », il nous rappelle, avec l'humour très à froid qui le caractérise, qu'il est important de manger ses légumes verts et qu'en cultivant correctement notre terre, nous trouverons des cieux accueillants au terme de notre existence ici-bas. Il faut remercier le bon Dieu, nous disent John Balance et Peter Christopherson, pour les choses qu'il nous a données, mais aussi, voire surtout, pour celles qu'il ne nous a pas données.
Wise words from
Après cet interlude un peu troublant en termes d'élévation spirituelle, nous allons rejoindre d'autres cieux, en l'occurrence le ciel et la lune, puisque c'est vers eux que nous conduit Jeff Mills en 2017 avec son projet Trip to the Moon. Il n'est peut-être pas nécessaire de présenter Jeff Mills, figure légendaire de la musique électronique, d'abord en tant que DJ sous le nom de The Wizard sur les ondes de la station WJLB à Détroit, puis producteur de classiques des clubs sous son propre nom au cours des années 90. Basé à Paris depuis de longues années, Mills a plusieurs fois composé pour des chefs-d'œuvre du cinéma muet, comme Metropolis de Fritz Lang et ici Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, adapté de Jules Verne. Sur cette bande originale, conçu plus de 100 ans après la sortie du film, le musicien américain a consacré une plage aux merveilles botaniques et plantes étranges qu'on trouverait sur la Lune. Une démonstration de techno envoûté qui semble prendre le jazz du mauvais côté, comme s'il se trouvait en somme sur la face cachée de l'astre. Nous restons à Détroit le temps d'un deuxième morceau qui s'intitule Psychotic Photosynthesis, signé par un producteur plus jeune que Jeff Mills, moins intégré que lui aux institutions culturelles, mais non moins talentueux, il s'agit de Omar S. L'idée d'une photosynthèse psychotique n'a certainement pas de valeur scientifique, mais ce titre techno nous suggère en tout cas des images de croissance, de puissance naturelle, parfois intense, mais néanmoins sereine. Ces dernières années, nombre de jeunes artistes ont voulu politiser leurs travaux. Outre l'affirmation des minorités, qu'elles soient queer ou racisées, cette génération, née dans les années 90, voire 2000, lutte à travers sa musique pour éveiller les consciences écologiques. Il s'agit moins pour eux de sensibiliser leurs auditeurs au tri des déchets ou au circuit court que de redéfinir le rapport au monde végétal. Un monde qu'ils n'ont jamais vraiment connu en bonne santé et qu'ils envisagent presque comme un univers défunt, quasi imaginaire, fantasmé. Un monde qu'ils tâchent de recréer tel qu'ils le voient dans certains jeux vidéo et à l'aide d'outils et de textures qui ne font sûrement pas mieux pousser leur ficus, mais qui donnent une énergie inédite au projet écologique. Le label Eco Futurism Corporation réunit des producteurs du monde entier, mais il est basé en Australie, pays où, pour le coup, la nature est encore présente à l'état sauvage. La compilation Eco Moderne volume 2, sortie en 2016, présente un échantillon de son esthétique à la fois SF et éco-centrée. Une voix robotique annonce ainsi en ouverture que les machines vont exterminer l'humanité du globe pour sauver la nature. Un principe qui associe l'idée d'écologie profonde à celle de la singularité, même s'il semble ici purement fictionnel. La musique que l'on entend est un amalgame de bruitages vidéoludiques, de nappes synthétiques angoissantes et de fragments rythmiques issus du grime ou du dubstep. Nous avons d'abord entendu City Forest de Jem Tree, maintenant suivi de Elden Root par le bien nommé Herbarium, un titre inspiré par un arbre figurant dans le jeu vidéo Elden Scrolls. Le dialogue entre la musique électronique et les plantes a donc muté, ni plus ni moins, depuis ce début des années 70, encore marqué par l'insouciance régressive du mouvement hippie. Mais les artistes synthétiques d'aujourd'hui sont toujours nombreux à estimer les pièces fondatrices de Stevie Wonder et de ses confrères. Il existe d'ailleurs encore quelques disques destinés aux plantes, comme par exemple Six Songs for Invisible Gardens de l'américaine Olive Ardizzoni, alias Greenhouse, dont nous écoutons ici le titre Soft Meadow. Thank you.
Représenter un arbre que vous avez connu ou particulièrement aimé. Cet arbre, vous le placez dans le cadre de votre choix. Un, vous êtes à l'écoute. Vous êtes heureux, vous êtes calme et fort, calme et fort. Un, deux, trois, devenez cet arbre. Deux, trois, vous êtes un arbre. Un, deux, trois, devenez cet arbre.
C'est sur une note à la fois babacool et comique que nous nous quittons aujourd'hui avec un morceau français de Deep House sorti plusieurs années avant que l'on ne parle de French Touch. C'est le petit tube « Vous êtes un arbre » du groupe SDA qui sample une obscure cassette de méditation éditée par un professeur de yoga nommé Guy Beaujoin. Bonne transformation à vous et à demain pour un deuxième épisode qui sera consacré au règne animal dans la musique électronique.
Grâce à votre volonté, vous sentez cette sève qui monte en vous. Vous ne pensez plus à Dieu.
Cette émission a été réalisée par Philippe Baudouin avec à la technique Édouard Rubinstein. Un grand merci à Eric Deshaies. Nous vous souhaitons un très bon après-midi à l'écoute de France Culture.
Le bleu du ciel, retenez votre souffle, retenez les nuages, retenez votre souffle, retenez la terre humide, retenez votre souffle, retenez le chant des oiseaux, retenez votre souffle, retenez l'odeur de fleurs. Retenez
obtenez votre sou. Obtenez le bleu du ciel. Obtenez votre sou. Obtenez des petits craquements. Obtenez votre sou. Obtenez le bleu du ciel. Obtenez votre sou. Obtenez les nuages. Obtenez votre sou. Obtenez la terre humide. Obtenez votre sou. Obtenez les nuages. Obtenez votre sou. Obtenez des petits craquements. Obtenez votre sou. Obtenez l'odeur des fleurs. 2, 3. Vous devenez cet arbre. 2, 3. Vous êtes un arbre.